6h02, lundi 18 janvier. Bonne journée et bienvenue au 88.5 FM. Avec un petit peu de neige ce matin, quelques flocons par endroit. C'est autour de moins 6. On retourne vers des valeurs de janvier. Et ça ne bougera pas tellement. Moins 5, c'est le maximum prévu pour aujourd'hui. Généralement nuageux. Il y aura cependant un dégagement à partir du midi 1h et un peu pour l'après-midi. Pour ce qui est de la soirée et la nuit, quelques nuages, minimum de moins 12. Et pour mercredi, on prévoit une alternance de soleil de nuages, moins 7. Même scénario pour mercredi. Davantage couvert jeudi et vendredi, avec possiblement aussi un peu de neige, mais ça reste à préciser. Bon, ce matin, il faut parler, bien sûr, du dossier COVID. Il y a plusieurs angles importants. D'abord, rappelons que les ados retournent à l'école en alternance pour ce qui est des zones rouges, mais c'est un peu partout, là, zone rouge au Québec. Et il y a des nouvelles mesures qui sont donc prises pour ce retour en classe, notamment le port du masque. Et ce matin, vous pouvez lire un peu partout que la plupart des experts disent qu'avec tous ces masques, ça va permettre un meilleur contrôle. Donc, ils sont de retour en présentiel après avoir quoi passé 2 semaines. Là, j'oublie le congé, mais la période des fêtes. Et ils vont devoir porter ce masque bleu, le fameux masque, si on veut, dans leurs activités à l'école. Alors, c'est la grosse mesure qui a été annoncée. On ne partira pas la discussion sur les purificateurs d'air, mais ça va faire, on pense en tout cas, la différence. Puis là, il faut voir avec l'ouverture des écoles primaires la semaine dernière, les écoles secondaires, ça va être quoi l'impact sur le bilan? Parce que le bilan, là, les chiffres qu'on a vus en fin de semaine, là, il y a encore des problèmes de collecte de données, ce qui fait que ça fait quelques jours qu'on voit le nombre de cas baisser, mais est-ce que c'est réel? C'est un peu tannant, là, mais ils ont des problèmes là, à avoir un portrait juste. Mais on peut facilement conclure que ça demeure quand même élevé et que le réseau de la santé demeure sous pression. De plus en plus, il y a des gens qui commencent à en avoir assez. Pourquoi? Parce que tous les jours, vous avez dans un média quelqu'un qui vous raconte l'histoire d'un patient qui est en attente d'une chirurgie depuis le mois de mars, depuis le mois de juin. Des gens qui attendent et qui peuvent pas se faire soigner, peuvent pas être opérés. Des traitements qui sont reportés, des greffes qui sont repoussées. Tu sais, le patient non-COVID, là, il n'a pas de voix. On ne l'entend pas. Et il n'est pas dans un état toujours critique. Tandis que le patient COVID, tu n'as pas le choix. Quand il arrive à l'hôpital, on doit le garder. On doit, dans certains cas, l'intuber. Et de plus en plus de professionnels de la santé commencent à être pas mal fatigués de ça. Et des experts qui disent, est-ce qu'on devrait donner un coup de barre additionnel, plus musclé, mais de courte durée, 3 semaines, 1 mois, parce que là, il y a des mesures, puis il y a des exceptions, puis il y a des mesures. Puis là, c'est tous les jours, là, je suis inondé de courriels de gens qui me disent comment ça se fait qu'on peut aller faire du ski, mais qu'on ne peut pas aller dans un gym, par exemple, avec son entraîneur sur heure fixe, avec un rendez-vous. Comment ça se fait que je peux partir en voyage dans le sud, mais je ne peux pas aller voir des membres de ma famille. On a des vols COVID qui arrivent, la liste est longue. Là, hier, c'était quoi, 200 quelques vols depuis le début janvier. Des vols intérieurs, des gens qui arrivent ici avec la COVID. Est-ce qu'il y a vraiment une surveillance de la quarantaine? Oui, non, un peu, peut-être. Tu sais, tous ces irritants-là font que beaucoup de gens sont un peu tannés et commencent à le dire. On a quoi, 5-6 000 employés du réseau de la santé qui ne sont pas là. Pourquoi ils ne sont pas là? Bon, comme n'importe quelle entreprise, il y a des gens qui sont toujours absents là, pour toutes sortes de raisons, mais il y en a d'autres qui ont eu la COVID, d'autres qui sont en quarantaine, qui sont en attente d'un résultat. Puis à travers tout ça, vous voyez quoi? Je parlais des voyageurs, mais il y a plus que les voyageurs, là. Qu'est-ce qu'on a eu en fin de semaine? Bon, des hôtels qui peuvent vous organiser vos locations de chambre pour que vous soyez à proximité afin de faire un party. Vous avez également tous ces cas. Patrick Lagacé raconte une autre histoire ce matin de quelqu'un tout fier de montrer sur Facebook qui passe bien du temps dans le temps des fêtes, là, avec des membres de sa famille à faire les parties. Puis bon, il y a eu un cas de COVID, puis le cas de COVID s'est ramassé à la garderie, puis on a fermé un groupe de la garderie, puis ça a eu un impact pour l'ensemble des patients. des patients, des parents puis des enfants. Fait que tout ça mis ensemble, là, on peut comprendre une certaine écœurantite. Quand tu es un médecin puis tu dis « moi, je veux soigner le monde puis je ne peux pas les soigner parce que j'ai des cas de patients COVID qui prennent la place des autres », puis de voir que beaucoup de gens ne veulent pas se faire vacciner. La vaccination n'est pas obligatoire. Mais entre vous et moi, c'est dur à comprendre que du personnel soignant en contact avec des patients qui ont le virus, œuvrant dans un milieu à haut risque, refuse d'être vacciné. Maintenant, puisqu'on parle du vaccin, il y a tout le volet commercial de ça, c'est-à-dire que Pfizer, on le sait, a annoncé une baisse de la production. En Europe, on explique que ça va être à peu près une semaine de délai. Pour le Canada, on nous dit au contraire que les délais vont se prolonger et que non seulement les délais vont se prolonger, mais on va avoir à peu près la moitié moins de vaccins au cours des prochaines semaines. Quand vous regardez là, ce qui est annoncé, il faut revoir les plans de vaccination dans les différentes provinces parce qu'il y a une baisse de la production. Et on dispose de renseignements au Canada concernant les livraisons. La semaine du 18 janvier, là, celle qui commence, est en grande partie stable. Mais là, il y a des doses d'ici le 8 février qui ne pourront être administrées. Donc, ça vient ralentir le processus de vaccination au Québec. Alors, pourquoi ici au Canada, pourquoi en Europe, il semble qu'on a une cadence peut-être plus facile à garder? Point d'interrogation, mais quand même, ça demeure intéressant. Et là, vous avez plein de nouvelles en parallèle. Vous avez, par exemple, dans Le Devoir ce matin, des ambulanciers de différentes régions, notamment CETAM, là, dans la région de Montréal, qui sont prêts à aider les infirmières débordées. J'ai des paramédics qui m'écrivent dans Lanaudière, qui ont été particulièrement touchés par la COVID, qui disent « Hey, est-ce qu'on peut se faire vacciner, nous aussi? Est-ce qu'on peut être placé sur la liste prioritaire? » Donc, un paramédic pourrait être utilisé à l'urgence pour faire du triage, pour pouvoir donc aider, dépanner, donner un peu de temps aux infirmières qui sont, on le sait, débordées. Alors, dans Le Devoir, ce matin, vous avez cette option qui est débattue. Puis dans la presse, on parle de ces cas de COVID. Tu sais, tu vas à l'hôpital, tu es hospitalisé pour une raison, puis tu attrapes la COVID. C'est un faible pourcentage. Mais quand même, on peut dire que ça existe. Alors, ça fait le tour du volet COVID de ce matin. Oui, le volet économique, d'abord, le volet très positif ce matin. On le sait que pour beaucoup de restaurateurs, c'est extrêmement difficile. C'est bien beau, la livraison et le prêt à emporter. Mais ça ne vient pas couvrir, comme me disait un restaurateur. Oui, il y a peut-être autant de services qu'avant dans certains cas, mais... Bon, il y a tout le volet, par exemple, pour le vin ou encore des croupes qui sont plus importantes. C'est sûr que il y en a qui récupèrent bien, il y en a même qui font mieux, puis il y en a d'autres qui en arrachent carrément parce que tout ne voyage pas bien en termes de bouffe, là. Tout n'est pas parfait, là. Il y a des plats auxquels tu renonces parce qu'après l'avoir essayé, disons que quand ça arrive chez vous, c'est moins intéressant. Mais il y a des campagnes de pub qui s'organisent. Par exemple, à partir de lundi, nous dit Le Devoir, on peut s'attendre à voir et entendre des publicités « J'adore mon resto » à la télé, à la radio, un peu partout. C'est Marina Orsini qui a été recrutée en tant que porte-parole. Et c'est une campagne d'amour visant à soutenir les restaurateurs, votre restaurateur préféré, celui de votre coin, à travers le Québec, en disant « il ne faut pas l'oublier ». Et il y a différentes opérations comme ça qui sont organisées. Et je trouve ça vraiment important parce que puis il y a d'autres secteurs de l'économie aussi qui sont durement touchés, là, je pense au gym entre autres, là. Mais c'est clair que cette période-là est extrêmement difficile. Et entre vous et moi, là, est-ce qu'on voit un horizon où on va retourner au restaurant, même dans les conditions du printemps, du mois de mai, là, pas certain que ça va arriver bientôt, là. Même avec un restaurant préparé, aménagé, avec des plexiglas, je pense que ça va malheureusement s'étirer dans le temps. Et le côté sombre un peu, puis je vous dirais, c'était prévisible. Quand tu annonces des programmes comme la PCU ou des programmes d'aide aux entreprises, l'idée, c'est pas d'avoir, de façon générale, des mesures trop complexes, mais de donner de l'argent à ceux qui en ont besoin en période de crise. Alors, la fameuse subvention salariale d'urgence, ce qu'on découvre ce matin dans des chiffres qui sont publics, mais dont la presse a pu faire une espèce de tableau, là, c'est que vous avez plein d'entreprises qui ont eu droit à l'aide fédérale, mais des entreprises douteuses, bars de danseuses contrôlées par la pègre. Mais en même temps, il y a des travailleurs là-dedans, le pro-gym dans l'Est, disons, qui opère avec présence d'individus douteux. Là aussi, vous avez des employés. Alors, la liste est longue. Des entreprises qui ont fait, qui ont déjà été impliquées dans des cas de fraude. On donne l'exemple de Guy Allary, un Montréalais qui a été condamné à payer des amendes totalisant 100 000 $ en novembre pour avoir fraudé lors des remboursements de taxes de son entreprise à Numéro. Il avait été condamné à une peine de sursis de 6 mois. Il n'est pas admissible au contrat public, mais il y a quand même eu de l'argent. Qu'est-ce que vous voulez? Fait partie, et j'imagine qu'on va repasser les dossiers à la loupe, là, mais c'est pas interdit comme tel. Puis ça fait partie de l'argent qui s'en va dans le goulot, mais c'est le prix à payer souvent pour être peut-être un peu plus vite, un petit peu plus, disons, rapide à intervenir pour aider ceux et celles qui en ont besoin. Est-ce que vous réalisez qu'il ne reste que 3 jours à Donald Trump comme président des États-Unis? Il va quitter mercredi. D'ailleurs, il avait demandé à faire une espèce de défilé militaire pour son dernier tour de piste, ce qui lui a été refusé. Donc, une espèce de défilé du commandant en chef. On sait qu'il ne sera pas présent, c'est du jamais vu, là. Lors de l'assermentation de Joe Biden, il va sacrer le camp tôt le matin vers la Floride avec sa famille. Et il ne veut pas être présent. C'est Mike Pence, le vice-président, qui sera là. Et on assiste depuis quelques jours à une intensification du marché du pardon. C'est assez étonnant de voir que le président des États-Unis a le pouvoir de pardonner ou de gracier des gens qui ont des dossiers criminels. C'est dans la Constitution, c'est permis. Depuis Bill Clinton, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui monnayent leur pardon et qui donnent de l'argent à des intermédiaires qui sont prêts du président. Dans le cas de Clinton, c'était des individus qui donnaient des 50 000 à des proches, les amis des Clinton, des montants de 100 000 qui étaient donnés comme intermédiaires lobbyistes. Mais à la différence de Trump, c'est qu'il y avait un processus quand même au département de la justice. Tu ne pouvais pas gracier n'importe qui, n'importe comment. Dans le cas de Trump, c'est n'importe qui, n'importe comment, en autant que tu es un ami, ou encore que tu es prêt à payer. Et on s'est rendu compte, c'était dans le New York Times hier, que des gens vont donc demander jusqu'à 50 000 $. Ça, c'est tu payes d'avance, puis si tu as le pardon, c'est un autre 50 000. Ça se demandait si M. Trump indirectement touche de l'argent. Il y a même Rudy Giuliani, qui est de plus en plus fou, entre vous et moi, là, et qui, lui, aurait demandé 2 millions pour faire des représentations auprès de Trump. Alors, on s'attend, et on sait qu'il a gracié quand même, pardonné de ses proches, des gens comme Roger Stone, l'organisateur qui avait été condamné à la prison, qui était un spectaculaire personnage qui a fait d'ailleurs l'objet d'un documentaire excellent qui est disponible sur Netflix. Et là, vous avez les juristes qui débattent. Est-ce que M. Trump peut obtenir à l'avance un pardon pour lui-même et pour les membres de sa famille? Tu sais, on n'est pas accusé pour l'instant, mais comme on risque peut-être de l'être, est-ce qu'on peut obtenir l'auto-pardon? Et là, vous avez des juristes qui débattent sur le plan constitutionnel de cette possibilité. Journal de Montréal ce matin, c'est comme un retour, si on veut. Le ministère des Transports est secoué par une tempête, ministère des Transports du Québec, là. Manque de surveillance qui laisse croire à un retour de la collusion et de la corruption dans les contrats publics. Après la commission Charbonneau, la division des enquêtes a été décimée, le climat de travail est jugé toxique. Il semble que du côté des enquêtes, là, c'est comme une coquille vide. Il reste un seul enquêteur actif. Les cadres ont quitté. Ça, c'est supposé là, être la branche qui supervise au sein du ministère des Transports pour éviter ce qu'on a connu, ce qui a été exposé durant la commission Charbonneau. Alors, le rôle de ces enquêteurs est d'intervenir donc à la suite d'une plainte liée à la collusion ou à la corruption. Et depuis 2 ans, des pans entiers d'enquête ont été abandonnés, faute de surveillance plus étroite d'enquêteurs. Et vous avez un sous-ministre qui, semble-t-il, provoque beaucoup de friction, qui a du harcèlement à l'intérieur. Juin 2019, enquête externe pour harcèlement suspendue. Juillet 2019, départ d'un quatrième enquêteur. 2020, départ du sous-ministre. Bref, il arrive quoi au ministère des Transports? Et pas besoin de vous rappeler l'importance des enjeux financiers quand vous regardez les contrats qui sont accordés. Il y a quelque chose évidemment extrêmement désolant dans ça. Un petit mot aussi sur le Globe and Mail ce matin. Quand vous regardez vos primes d'assurance habitation à travers le Canada, puis on sait qu'il y a différents facteurs là, pour pondérer les coûts, là, mais on nous dit que le Canada en 2020, c'est la quatrième plus grosse année en termes de remboursement par les compagnies d'assurance, 2,4 milliards. Et tout ça relié à des situations de température extrême. Vous me direz, pendant la pandémie, les gens sont à la maison, il y a peut-être moins de réclamations, mais de façon globale, quand vous prenez 2020, tous les cas d'inondation, les cas de désastres naturels, ben, ça fait augmenter de beaucoup la facture. Et puis, 2 mots sur la scène internationale. D'abord, 5 mois après avoir été empoisonné, l'opposant numéro 1 du Kremlin, Alexei Navalny, rentré dimanche en Russie. Et il était menacé d'incarcération. Ça s'est fait. Donc, dès son arrivée, il a été appréhendé. C'est un opposant à Vladimir Poutine. Et il a dit « Je n'ai pas peur de retourner dans mon pays ». Et on sait que M. Poutine a toujours nié l'implication de la Russie dans cet empoisonnement. On se souvient donc qu'on lui a sauvé la vie. Les médecins disaient « Il est passé un cheveu de mourir ». Et on connaît un peu cette espèce de technique qui est d'empoisonner les gens. On dit qu'il doit être détenu à l'aéroport. Il doit comparaître le 29 janvier. Alors, où est-il exactement? Ça demeure à être confirmé. Et il y a Phil Spector, ce producteur de disques, qui est mort à l'âge de 81 ans. Il est en prison pour un meurtre. Il avait assassiné une jeune actrice après une soirée. Et c'est un gars, évidemment, qui a eu énormément de succès. On peut penser à des albums dans les années 50. Le palmarès était garni dans les années 60-70 de ses succès. Il a travaillé avec les Beatles, avec Lennon en particulier, avec Tina Turner. Il a même eu un rôle à un moment donné avec Céline Dion. Mais c'est un gars fourraide, obsédé par les armes à feu et qui n'hésitait pas à menacer des artistes et d'autres chanteurs qui allait contre ses directives. Et donc, complètement fou, il est mort en prison. 6h22. On va aller voir ce qui se passe, Marc.